95.7. Voici le commentaire de Bernard Drinville.
Il est 8h16. Bernard Drinville, bon matin.
Salut, comment ça va?
Ben ça va mal. Ben, écoute, excuse-nous d'abord, on est en retard pour une bonne raison. Deuxième des choses, on est un peu à maudit matin. Fait que...
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est au courant qu'il y a un reportage, enquête qui va être présenté sur la DPJ, puis une espèce de logiciel qui choisit quelle la priorité des cas. Bon, on vient de parler avec une représentante du syndicat qui s'appelle Nancy Poulin. C'est pas elle qui m'a mis en maudit nécessairement, autant que je crois qui, là? Parce que la DPJ nous dit, le syndicat, écoute, notre logiciel, là, on l'a, mais on n'en tient pas compte. Oui, on le trafique des fois pour que ça arrive à ce qu'on veut. Sinon, on demande à notre supérieur si on peut dévier des recommandations du logiciel. Fait qu'on s'en sert pas vraiment. La Commission des droits de la personne nous dit, le logiciel est responsable de la mort d'un enfant du côté d'Alma. Fait qui a raison? Là, c'est-tu le logiciel, le problème, ou c'est les employés?
C'est une très, très bonne question. On espère qu'on va finir par avoir la réponse. Il y a une période des questions aujourd'hui, là.
Puis là...
Non, mais c'est important, là.
On nous dit, le ministère nous force à l'utiliser, mais on ne tient pas compte du logiciel. Moi, mais là, ça fait 18 ans que je fais de la radio, je n'ai jamais entendu parler de ce logiciel-là. Là. Ça a l'air qu'il se plaigne souvent. Première nouvelle qu'on en a.
Écoute, en tout cas, c'est le ministre Carman qui risque de devoir répondre à ça à la période des questions d'aujourd'hui, mon ami.
Ça va devenir très, très, très intéressant. Parlant de période de questions, est-ce que la CAQ va se faire questionner sur le retrait? Parce que là, c'est officiel, là, de son fameux
règlement.
Oui, mais
c'est ça, là. Mais ce qui arrive, en fait, là, c'est que ça s'est passé cette nuit. Ils ont remis en place l'ancien programme en vertu d'un décret... d'une publication spéciale de la Gazette officielle. Je me suis levé un matin, là, puis j'ai appris ça, là.
OK.
Que ça, c'était... Alors, la bonne nouvelle, donc... Alors, je vous rappelle, parce que ça peut devenir un peu technique. Jolin Barrette a annoncé un nouveau programme, tu sais, pour les étudiants étrangers, qu'il a décidé de suspendre. Mais tu suspends le nouveau, mais l'ancien, lui, n'était pas encore réactivé. Alors, il a été réactivé cette nuit... pour permettre qu'on puisse recommencer à analyser puis à traiter les demandes des étudiants. Parce que les étudiants qui sont chez nous, là, par exemple, qui sont à l'UQAC, les étudiants étrangers qui sont à l'UQAC ou qui sont dans un des cégeps de votre région, il y en avait là-dedans là, qui avaient fait application pour avoir le certificat de sélection puis la résidence permanente. Et là, ils étaient dans les limbes. Mm-hmm. Ben, à partir de cette nuit, ils ne sont plus dans les limbes. Les vieilles règles ont été rétablies, donc les dossiers vont pouvoir recommencer à être traités. Et la bonne nouvelle, Dominique, c'est que pendant les 12 jours qu'a duré l'autre système, là,
oui.
Il y a du monde qui ont appliqué en vertu des nouvelles règles. Notamment, il y avait des gens qui avaient un DEP, là, un diplôme d'études professionnelles. On leur disait, si tu appliques, tu vas avoir une chance d'avoir le certificat de sélection du Québec puis éventuellement ta résidence permanente, ta citoyenneté canadienne. Il y en a qui ont appliqué, mais là, le règlement il a été suspendu. Mais dans le décret de cette nuit, ces cas-là, ces dossiers-là ne sont pas jetés à la poubelle. Ils vont les traiter. En d'autres mots, il n'y a personne qui va être sacrifié, tu comprends?
Bien, c'est la clause grand-père, mais à l'envers, dans le fond. C'est un peu ça.
C'est un petit peu ça. Fait que c'est une bonne nouvelle. Mais par ailleurs, je veux te dire, hier, je parlais avec un libéral. Un gars qui a servi pendant de nombreuses années dans plusieurs cabinets ministériels. OK? Mm-hmm. Et moi, je l'ai connu comme député. Parce que, tu sais, comme député, à un moment donné, tu as des dossiers de comté, tu veux régler des problèmes pour tes citoyens, tu es obligé de faire affaire avec le ministre d'en face. Le ministre, il a beau être libéral, on s'en fout. Oui. Tu sais, l'important, c'est de régler le problème. Fait que là, tu appelles le cabinet du ministre, puis là, tu finis par parler à quelqu'un. Et je me suis fait des amis, moi, au fil du temps, parmi les libéraux. Puis d'ailleurs, il y en a qui me parlent encore aujourd'hui, tu sais. Mm-hmm. Et donc, hier soir, j'avais une bonne discussion avec l'un d'entre eux. Puis c'est vraiment pas un libéral, là, tu sais, ultra-partisan. Là. Il me disait la CAQ était vraiment bon depuis un an. Tu sais, il méritait les bons résultats qu'ils avaient dans les sondages. C'est juste que là, ils se sont plantés, mais je veux dire, solides, avec l'histoire de l'immigration. Puis il me disait, je comprends pas pourquoi ils ont pas de comité des priorités chez Legault. Parce que du temps de Couillard et Charest, il y en avait un comité des priorités. Ça, là, un comité des priorités, c'est présidé par le premier ministre. Tu as quelques ministres clés autour de la table, puis tu deviens une espèce de comité de coordination de l'action gouvernementale.
Ouais, une espèce de comité exécutif. Là. La gang, la garde rapprochée, les ministères les plus importants, puis ceux qui prennent les décisions. Là.
C'est ça. Et exactement, l'idée de la comparaison avec le comité exécutif est très bonne, très exacte. Il me disait, s'il y avait eu ça, Il dit, moi, je pense qu'il aurait retardé la réforme de Jolin Barrette parce qu'une semaine après, il y avait le mini-budget qui arrivait avec toutes les bonnes nouvelles dedans. Sur les frais de garde, sur l'allocation familiale, sur les stationnements gratuits dans les hôpitaux ou dans les CHSLD. Mais il dit, ils n'en ont pas de comité des priorités. Fait que tout le pouvoir est concentré au cabinet du premier ministre. Et là, ben, puis évidemment, dans le cabinet ministériel. Puis là, ben, visiblement, ils l'ont échappé.
Ben,
je pense qu'ils ont été nombreux à l'échapper.
C'est lui qui aurait... Le bras droit de Legault aurait dû voir venir ça. Mais là, avec tous les dossiers qu'il a gérés, on peut comprendre que ça se peut qu'il l'ait échappé. Ouais.
C'est ça. Alors, je trouvais que c'était une observation intéressante. T'sais, dans un contexte où on essaie de comprendre pourquoi c'est arrivé, comment est-ce qu'une une dérape comme ça a pu se produire? T'sais, peut-être qu'il va falloir que, chez Legault, il se pose la question, François Legault et son entourage, est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place un comité des priorités, comme il y en avait un avant sous les autres gouvernements? Peut-être qu'on aurait une action gouvernementale plus coordonnée, mieux priorisée, puis peut-être qu'on s'éviterait des gaffes comme celles qu'on a commises.
Ben,
c'est intéressant,
pas fou,
non?
C'est pas fou.
Ben non, c'est pas fou.
Ça
c'est
va sûrement,
fou.
Évidemment, se faire éventuellement. On va jaser de la course à la succession de Michael Sabia, la Caisse de dépôt et de placement du Québec. D'abord, je me trompe-tu ou j'ai l'impression que ce gars-là n'a pas eu tout le mérite de ce qu'il a fait pour la Caisse? Il a été souvent critiqué pour certaines décisions, mais reste que la Caisse, tabarouette, depuis qu'il est là, est en santé.
Ah, écoute... C'est incroyable. En 10 ans, un rendement moyen de 9,9 %. Mettons 10-10.
Fais-vous en dire autant de Montréal.
Dit, là, 10% par année, c'est ben oui, c'est mieux que mes réels, certains. Tu sais? Puis l'autre affaire, rappelez-vous, quand il est arrivé, là, la caisse était à, je me rappelle bien, la valeur de l'actif autour de 130 milliards. Il laisse la caisse être à 330 milliards d'actifs. Hey, c'est quelque chose, c'est un méchant bas de laine, ça, là.
Oui.
On est content de ça. Alors oui, il a bien travaillé. Puis oui, on doit lui lever notre chapeau. Bon, il y en a qui disent qu'il quitte là, parce que ça commence à aller moins bien avec le REM, le fameux projet du REM. Bon, ça se peut, là. Puis il y en a d'autres qui disent qu'il quitte au bon moment parce qu'il est arrivé juste au creux. Il est arrivé quand les marchés de marché boursier étaient dans le creux après la dépression ou le peut-être pas la dépression, non, mais après la correction boursière de 2008. Il est arrivé, lui-là, là, c'était au plus bas, puis tu sais, il a comme surfé un peu sur la remontée très importante des marchés boursiers après 2008. Donc, son bilan a été aidé par ça. Mais il n'en meurt pas moins que moi, je pense que Michael Sabia a été un excellent, excellent président de la Caisse, puis on doit lui lever notre chapeau, là.
Oui, mais maintenant...
Il a très, très bien fait ça.
Là, on va rentrer dans la rectitude politique pour remplacer Michael Sabia. Est-ce qu'on regarde les CV d'abord et avant tout ou on regarde le sexe d'abord et avant tout de la personne qui va le remplacer?
Non. Oh non, moi j'embarque pas là-dedans. Là.
Non?
Moi, c'est la personne la plus compétente que ça nous prend. Si c'est une femme, tant mieux. Si c'est une femme, tant mieux. Mais ce que ça nous prend, c'est la personne la plus compétente qui va gérer 330 milliards. Ça prend quelqu'un qui connaît très bien les milieux financiers. Donc, ça prend un financier ou une financière.
Mm-hmm.
Ça prend quelqu'un aussi qui a une très bonne connaissance, à mon avis, de l'économie québécoise parce que le mandat développement économique est très important. Et troisièmement, ça prend quelqu'un qui a une sensibilité politique, qui comprend qu'à un moment donné, le rôle premier de la Caisse, c'est de nous donner du rendement pour s'assurer qu'on ait des bonnes retraites, qu'on ait de l'argent pour payer la régie des rentes, puis tout le reste, parce que c'est la Caisse de dépôt qui gère la régie des rentes. Là. La Caisse de la régie des rentes, c'est la Caisse de dépôt là, qui gère ça. Là. S'assurer qu'il y a de l'argent dans la Caisse. Bon, pour ça, ça prend des rendements. Mais il faut aussi, par moment, et c'est là que je reviens à la sensibilité politique, ça prend quelqu'un aussi qui comprend que la Caisse doit intervenir parfois pour protéger des sièges sociaux, que ce soit celui de Bombardier, que ce soit celui d'SNC-Lavalin. Enfin, on en a des belles entreprises au Québec. Hein?
Celui de Rona.
Ben, Rona. Rona, tu vois, ils l'ont laissé aller. Il s'en est défendu encore hier, Michael Sabia, dans une entrevue qu'il a donnée ici, là, au 98.5, en disant « rien n'allait ». Ça fonctionnait plus, Rona, puis on a eu une bonne offre pour l'acheter, puis on a décidé de le vendre à ce moment-là. En d'autres mots, lui, là, il s'excuse pas. Puis ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faut pas protéger un siège social à tout prix. Oui, il faut, par moment, le faire, parce que c'est des centres de décision stratégiques pour l'économie du Québec, mais il y a des moments où il vaut mieux prendre l'argent. C'est ça, en gros, qu'il disait.
Mm-hmm.
Puis il a fait un gros, gros rendement quand il a vendu les parts que la Caisse avait dans Rona. Et donc, il dit que, somme toute, au net, on a été gagnant. Il y a un débat là-dessus, Dominique. Moi, je vois pas le trancher, ce débat-là. Là. Tu sais, je suis pas au fait de tous les chiffres. De. Est-ce que parce que Dutton, l'ancien PDG de Rona, continue de dire que Rona était aurait pu être relancé, et puis ce siège social-là, cette entreprise-là sera encore québécoise, puis peut-être, je ne sais pas. Mais Sabia, là-dessus, s'assume complètement. Et puis là, ben, ce qui est intéressant dans la course à la succession, c'est que, bon, d'abord, tu me parlais de est-ce qu'on nomme une femme en premier, est-ce que c'est ça le premier critère?
Ben là, on semble.
Ça nous amène à. C'est Sophie Brochu, là, l'ancienne présidente de Gaz Métro, qui est devenue Énergir. Sa candidature a beaucoup circulé. Là, elle la retire. Elle a dit, moi, je veux pas être considérée parmi les candidats, candidates. Ça m'intéresse pas. Mais ce qui est le plus intéressant, ou en tout cas tout aussi intéressant, c'est que le président de la Banque nationale, Louis Vachon, a été approché personnellement par François Legault.
Okay.
Pour qu'il pose sa candidature. C'est Luc Lavoie, mon collègue, là, dans la troisième heure de l'émission, qui a appris ça d'une source irréprochable. Là. Moi, je connais sa source, je ne veux pas la dévoiler, mais je peux vous dire, l'information est très solide. François Legault est au moins un de ses ministres économiques. Bon, les ministres économiques, là, il y en a trois. C'est Dubé au Trésor, c'est Girard aux Finances ou c'est Fitzgibbon à l'économie. Il y en a un de ces trois-là, au moins un de ces trois-là, qui a aussi contacté Louis Vachon pour lui dire « Pose ta candidature pour être le prochain PDG de la Caisse. On aimerait ça que tu poses ta candidature. » Et Vachon, hier, a émis un communiqué pour dire « Ma responsabilité, c'est de diriger la Banque nationale puis ça va être ma seule priorité au cours des prochaines années. » Donc, lui aussi a décidé de ne pas tenter sa chance. Bon, mais tout ça pour vous dire, quand vous allez vous faire dire que le processus est un processus indépendant, puis qu'il y a un comité mis en place au sein de la Caisse pour sélectionner le prochain ou la prochaine, puis qu'il va y avoir des chasseurs de têtes qui vont ratisser la planète pour rabattre les meilleures candidatures possibles pour qu'on ait là, le top du top, mais rappelez-vous qu'en bout de ligne, c'est François Legault qui va décider.
Ben,
c'est lui qui a le dernier mot.
C'est un choix qui est très politique aussi, puis qui peut être facilement critiqué, puis le moindrement que ça va mal, ça y retombe dessus, là, d'une façon ou d'une autre.
Et voilà. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que non seulement il choisit, mais il démarche.
Ouais.
Le premier ministre lui-même fait des appels pour inciter certaines personnes à postuler pour le travail. Puis,
mais,
t'sais, quand le premier ministre te demande d'appliquer, moi, je trouve que ça ressemble à quelqu'un qui dit « si t'appliques, tu vas l'avoir ».
Mais on s'entend, là. T'sais, mettons que tu travailles au privé, tu gagnes quoi? 2 millions par année, là. Puis t'es au privé, là, à l'abri de toutes les critiques, les regards. Tu peux aller là?
Je pense que Vachon fait 10 millions par année.
Ben, tu vas-tu aller à la Caisse de dépôt de placement du Québec?
Ben,
ils
ne
t'offriront pas 10 millions par année.
Mais en même temps, Dominique, quand ça fait plusieurs années que tu fais 5, 6, 7, 10 millions là, avec tes options puis tout le reste, là, puis mettons t'en as 100 millions de collés à la banque, là. T'en as-tu besoin de 120? À un moment donné, tu peux décider. La Caisse de dépôt, c'est un beau défi. Je peux laisser une trace dans ma société. Je vais gérer un fonds de 330 milliards. C'est quand même pas rien.
Écoute, c'est peut-être moi qui est paresseux, là, mais à 57 ans, là, j'ai 100 millions de collés. Là. Ça me tente-tu d'aller me faire critiquer à la Caisse de dépôt et de placement du Québec si je fais une erreur? Gamma, aller dans le Sud, m'a acheté un atoll comme Guy Laliberté, m'en va du plaisir.
Moi, Dominique, là, non, moi, j'irais.
Ah, tu irais,
oui. Ben, j'irais. Ben oui, mais c'est un peu ça que j'ai fait. Quand j'ai décidé de faire le saut en politique, j'ai pas fait ça pour l'argent. J'ai perdu de l'argent. Moi, j'étais animateur. Je faisais un bien meilleur salaire. Mais ça me tentait de faire de la politique parce que c'était ça mon rêve.
Ouais, ouais.
Alors, quelqu'un qui a le rêve de qui a le goût, là, qu'on se rappelle de lui ou d'elle parce que tu as été un grand bâtisseur de l'économie du Québec, puis comme président de la Caisse, tu as contribué à, je sais pas moi, au développement d'un certain nombre de grandes entreprises québécoises, tu sais, en devenant partenaire financier, en devenant actionnaire de cette entreprise-là, en la prenant toute petite, puis en la laissant, on a des géants au Québec, là. Imagine-toi comme président de la Caisse, tu contribues à ça, tu t'en vas à ta retraite 10 ans plus tard, c'est sûr que tu as perdu de l'argent, mais me semble, tu te regardes, puis tu te dis, ouais, écoute, j'ai fait du bon. Tu sais, j'ai laissé quelque chose à ma société.
Absolument. Moi, je
comprends sa décision. Je ne suis pas en train de dire que ton argument n'est pas bon, parce qu'effectivement, tu t'en vas jouer un rôle qui est quand même assez public, président de la Caisse. C'est sûr que c'est moins tranquille, c'est moins peinard que si tu restes PDG de la Banque nationale.
Absolument. On va terminer avec Yves-François Blanchet. Il a finalement rencontré Justin Trudeau.
Ben oui, puis il a bien fait ça. Honnêtement, là, il avait l'air d'un poisson dans l'eau, avec son petit nœud papillon, détendu, souriant. Puis j'ai beaucoup aimé et le fond et le ton. Sur le fond, il a dit, « Garde, quand ça va être bon pour les Québécois, on va voter pour. » On fera pas de grand, tu sais, on va pas niaiser, là, puis j'ai aimé ça, son approche, de dire, moi, là, je suis capable de collaborer avec Trudeau. Quand ça va être bon, je regarderai pas la couleur, je vais regarder le résultat. J'aime ça, moi, comme approche. Tu sais, il dit qu'il va travailler là, pour que les cultivateurs sous gestion de l'offre aient leur chèque le plus rapidement possible. J'espère qu'ils vont l'avoir d'ici la fin de l'année. Ça fait un bout qu'ils l'attendent. Mm-hmm. Mais tu sais, il veut majorer, par exemple, les pensions de retraite pour les aînés. Il pense qu'il peut travailler avec Trudeau pour que Trudeau augmente la valeur des pensions de nos aînés dans son premier budget. Bon, ben, il peut faire du bien, Blanchet, de cette manière-là. Puis je trouve ça positif. Et sur le ton, il a dit... Tu sais, là, moi, la politique où on passe notre temps à planter l'adversaire, puis on passe notre temps à taper ses bureaux, puis à envoyer promener le libéral d'en face, il dit, moi, je marche pas là-dedans. Bon, là, honnêtement, je suis content qu'ils le disent, mais je vous annonce tout de suite que ça durera pas longtemps. Ouais. Parce que Dominique, ben là, le naturel va revenir au galop assez sûr. Vite.
C'est ce que j'allais te dire, tu sais, ça c'est le beau discours là, de on commence à collaborer, mais c'est toi qui va avoir le moindrement un peu de sable dans l'engrenage fini là.
Mais oui, puis tu sais, ça arrive, c'est toujours comme ça, mais c'est correct, tu sais, c'est correct. Mais tu sais, il va être obligé de parler à sa gang là, s'il est vraiment sérieux là. Tu sais, Alain Therrien qui l'a nommé comme leader là. T'es un méchant petit coq ça là. Mm-hmm. Moi j'ai avec, je veux dire Alain là, c'est pas toujours il fait pas toujours dans dentelle là. Puis je t'annonce que ça sera pas toujours, comment je te dirais bien ça, poli et respectueux. Là.
Sûrement pas.
Il est du genre, à un moment donné, lui laisse en aller dans le coin puis à lâcher les gants. Tu me suis-tu?
Tout à fait. Tout à fait.
Louis Plamondon, là, qui est là depuis 84, là, qui est le doyen de la Chambre des communes, qui a été élu avec Mulroney en 84, va dire, en chambre, il donne pas sa place. Si on mettait une caméra... Mettons, on serait à la période des questions à Ottawa. Si on mettait une caméra sur le visage des députés du Bloc qui sont autour du bureau de Louis Plamondon, vous les verriez crampés pendant la période des questions, parce que Plamondon, il n'arrête pas de d'houspiller puis de vilipender puis de « Hey, toi, t'es rien qu'un pourri! »
Oui,
il lâche pas deux minutes.
Non, mais ils sont divertissants, ceux-là. On a déjà eu des bons amis, ils sont divertissants.
Alors, tu sais, que Yves-François dit, vous savez, moi, ma gang, là, ils vont être respectueux, puis on va bien faire ça, puis on va avoir un comportement respectueux. Ben, oui. Là, Yves-François, c'est bien que tu le dises.
Oui.
Mais je t'annonce tout de suite que...
Tu le feras pas.
Ben, tu vas essayer de le faire, mais ça durera pas trop longtemps. Mais c'est pas grave. Les intentions sont bonnes. Il veut travailler. Il veut que ça produise des résultats. Puis pas mal différent de Andrew Scheer, qui, lui, est dans l'opposition. Ben, là.
C'est ça. Mais c'est un peu comme les vœux de nouvelle année, tu sais, comme les résolutions du nouvel an qui vont arriver bientôt. Ah, je vais m'entraîner cette année, je me remets en forme pendant 3 semaines. C'est un peu ça.
Ouais. Le temps de brûler la tarte au sucre.
Exactement.
Après ça, c'est vrai que les rendez-vous, ça se passe.
Bernard Drainville, merci beaucoup.
Hey, salut.
Salut, bonne journée.
À la prochaine.
8h34.
Bye. On revient tout de suite après la pause. 95.7, Saguenay. Le show du matin.